Alors, bonsoir et bienvenue sur Radio Libertaire, 89,4 MHz. Téléphone du studio 01 43 71 89 40. Je vous dis cela avant même de vous communiquer le nom de notre invité et la raison d'être de cette émission ce soir. En tout cas, vous êtes toujours donc sur l'invité du vendredi ou trait d'union, c'est selon. Et comme chaque quatrième vendredi de chaque mois, nous allons pouvoir discuter pendant deux heures autour d'un thème. Et le support de ce thème aujourd'hui, c'est une revue à nouveau, comme le mois dernier, un peu différente, qui s'appelle Savoir slash Agir. Et Louis Weber, donc, a la gentillesse de venir un peu représenter la revue et nous expliquer un peu ce dont il s'agit. Alors, avec tout le parcours qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une association derrière, il y a une revue, et il y a le numéro spécifique qui nous intéresse un peu plus particulièrement aujourd'hui, et qui date de septembre 2011. Alors Louis, si tu veux bien te présenter à nos auditeurs, qu'ils sachent un peu à qui ils aient affaire.
Voilà, oui, volontiers. Puisque tu parlais de la revue, là, donc, je suis un peu le coordinateur de la rédaction de la revue, c'est-à-dire celui qui met tout ça en place, étant entendu que les gens qui écrivent les articles, enfin, il m'arrive d'en écrire aussi, mais sont généralement des jeunes chercheurs, on pourrait dire bourdieusiens, hein, des héritiers de Bourdieu en quelque sorte. Alors moi-même, je viens pas de là, hein, j'ai été longtemps dans la formation des enseignants, hein, mon dernier poste ça a été à l'UFM de Créteil. Mais j'ai aussi un passé syndical assez lourd, disons, ou assez fort, hein, ça dépend comment on fait ça, la FSU. J'ai notamment présidé l'Institut de recherche de la FSU pendant une dizaine d'années, jusqu'il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est là que j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, qui m'a beaucoup plu, hein, sortant de l'activité professionnelle d'enseignant formateur et de l'activité syndicale, d'avoir donc accès à un autre type d'activité qui est de la recherche, enfin surtout les relations avec les chercheurs. Moi-même, avec d'autres d'ailleurs, j'ai co-dirigé, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, un ouvrage qui a fait un certain bruit il y a bientôt 10 ans, qui s'appelle le Nouvel Ordre Éducatif Mondial. C'était aux éditions Sileps, mais je fais de la publicité d'autant plus gratuite qu'il est épuisé depuis longtemps. Mais enfin, ça peut se trouver dans les bibliothèques. C'était sans doute un des premiers ouvrages dans le cadre de l'Institut de recherche de la FSU où on analysait un double phénomène. C'est l'internationalisation des questions d'éducation, hein, c'est-à-dire que le fait que les gouvernements, enfin les ministres de l'éducation nationale dans les divers pays étaient où les politiques qu'ils menaient en tout cas étaient de plus en plus influencées par des instances internationales, ça c'était la première chose. Mais la deuxième chose qui nous inquiétait beaucoup plus, c'est que ces instances internationales étaient en général non pas des instances comme l'UNESCO, hein, dont la vocation est l'éducation et la culture, mais étaient des instances financières, hein, enfin économico-financières. La Banque mondiale, hein, qui exerçait une grosse influence sur l'éducation. La Commission européenne, hein, qui n'a pas particulièrement vocation à donner dans la pédagogie, et singulièrement l'OCDE, c'est-à-dire l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc, en intitulant ce livre « Le nouvel ordre éducatif mondial », nous voulions montrer, ça avait provoqué des débats, mais nous voulions montrer que de plus en plus, les questions d'éducation étaient traitées non pas par les pédagogues, hein, mais par les institutions financières qui, évidemment, raisonnent en termes de coûts, en termes de rentabilité, et surtout en termes, comme disent les spécialistes, en termes utilitaristes, c'est-à-dire privilégiant ce qui est très à la mode d'ailleurs aujourd'hui dans les systèmes éducatifs, les approches par compétences, par tout ce qui peut être directement traduit, enfin tout ce qui peut être mesuré comme un résultat immédiat de l'éducation. Voilà, donc, enfin, personnellement, enfin, pourquoi je me suis retrouvé là, je peux enchaîner tout de suite en deux...
Allons-y.
Donc, Savoir Agir, c'est donc la revue de l'association du même nom. Cette association, qui a changé de nom récemment, s'appelait, donc jusqu'il y a un an ou deux, l'association Raison d'Agir, qui avait été fondée donc par Pierre Bourdieu, hein, et donc qui est une association, disons, de sociologie critique, hein, puisque c'est généralement le vocabulaire qui est utilisé pour désigner cette école de pensée. En réalité, alors, comme je pense que beaucoup de lecteurs ont déjà, beaucoup d'auditeurs ont déjà entendu parler de Raison d'Agir, en fait, Bourdieu a créé à la fois une maison d'édition et fondé cette association qui menait sa vie propre. Avec la disparition de Bourdieu, les deux entités ont vécu leur propre vie. Hein, c'est-à-dire que les éditions Raison d'Agir continuent à publier, d'ailleurs, c'est un éditeur qui a sa place, et des livres souvent, enfin toujours intéressants d'ailleurs, qui relèvent d'ailleurs de cette sociologie critique. L'association, elle, étant plutôt... est une association loi 1901, donc qui a sa vie propre. Le président, c'est Frédéric Le Baron, professeur de sociologie à l'université de Picardie. Et l'activité de l'association Raison d'Agir, c'est d'abord cette revue, hein, depuis, nous en sommes au numéro 17, donc à raison de 4 par an, voilà.
Le calcul.
Le calcul est vite fait, et puis publie aussi une collection de livres, hein, avec un éditeur qui est lui aussi un éditeur, disons, militant, hein, ça s'appelle les éditions du Croquant. C'est un, enfin je mets le mot entre guillemets évidemment, un petit éditeur, hein, c'est-à-dire qui... Je veux dire par là qui essaye, dans toute la mesure du possible, de se situer hors des circuits uniquement marchands, donc de publier de jeunes auteurs. Il y a toute une collection de livres maintenant, ce sont des trucs qui se montent. Hein, c'est... Voilà, donc, à la fois un peu un bref historique, et puis... enfin, pour qu'on comprenne bien si dans la suite de cette émission, nous parlons tantôt de Raison d'Agir, tantôt de Savoir Agir. Mais en tout cas, c'est la mouvance, enfin les héritiers de Pierre Bourdieu du point de vue des orientations sociologiques, c'est-à-dire la sociologie critique.
Alors, maintenant que les auditeurs savent de quoi il s'agit, j'ai précisé deux choses. D'abord, si vous voulez plus de renseignements, hein, pendant l'émission même, vous pouvez aller voir sur Internet. Vous avez donc le site www.savoir-agir.org, qui est par rapport donc à la revue et l'association. Et les éditions dont tu parlais, Louis, qui sont les www.éditionplurielducroquant.org, même chose. Vous aurez accès déjà à la commande de la revue, et également aux autres ouvrages publiés par cet éditeur. Donc le premier numéro en fait de la revue date de septembre 2007. C'était « Élection 2007, virgule, du sens d'une défaite ». Donc ça a commencé... sous certains auspices. Bon, je vous dis rapidement quelques titres afin de donner une idée de la revue. Il y avait le travail, deux points, ambivalence et contradiction, économiser la santé, un peuple européen sur mesure, social de crise, social en crise, figure patronale, lutte au travail, la crise, la fausse sortie, justice en réforme, justice au pluriel en lutte, le médicament, le dessous d'une marchandise, et donc le numéro qui vient de sortir, hein, au mois de septembre, qui est les inégalités devant l'éducation. On a pas mal entendu parler, là, notamment lors des primaires socialistes, etc., des questions d'éducation, est-ce qu'on réembauche 60 000 personnes ou pas, des questions qui se posent un peu en termes quantitatifs, tu le signalais, et qui méritaient, à mon sens, d'être creusées. Il me semblait que dans cette revue, on avait une autre approche, avec beaucoup de références à Bourdieu, ça évidemment, et des questions qui se posent un peu autrement, et qui méritent d'être expliquées, prendre le temps un peu d'en discuter. Alors, juste, j'ai nommé les articles qui concernent les inégalités dans l'éducation.
Oui, alors, attends, avant d'entrer dans ce numéro, si tu permets, les titres que tu as donnés, hein, en réalité, la revue, il y a deux parties dans la revue. Hein. C'est-à-dire, il y a ce que nous appelons le dossier, hein, ça fait en gros une bonne moitié de la pagination. Donc c'est les titres là, c'est généralement le dossier est fait de 5 ou 6 articles sur un thème précis et ce sont des articles rédigés en règle générale, en quelque sorte, par des chercheurs. Et notamment, nous essayons de favoriser beaucoup la publication d'articles par des jeunes chercheurs, des sociologues, sur, par exemple, sur le médicament. Il y a c'est un des titres que tu as cités. C'est toute une série de gens qui travaillent en tant que scientifiques, en tant que sociologues, sur la manière dont les médicaments se fabriquent, se commercialisent. Évidemment, avec une orientation, encore une fois, qui est celle de la sociologie critique, qui n'est pas une catégorie politique. Hein. C'est en tant que chercheur, il se situe dans la droite ligne d'ailleurs des travaux de Bourdieu, essayer de mieux comprendre ce qui se passe réellement dans la société. Mais à côté de ces dossiers, il y a un certain nombre de rubriques régulières. Hein. J'en énumère quelques-unes. Là, il y a un grand entretien en général, donc qui est plus ou moins lié au dossier, mais qui est généralement dehors, où on interroge un chercheur sur son parcours, sur sa façon de travailler, sur les grands thèmes de ses recherches. Dans le dernier, justement, un peu lié d'ailleurs aux inégalités de l'éducation, mais devant l'éducation, mais pas seulement. Il y a une longue interview de Stéphane Beau, le professeur de l'École normale supérieure, enfin bien connu pour ses travaux sur l'éducation, mais aussi ses travaux sur la classe ouvrière, sur Peugeot, sur... Donc il y a un grand entretien qui dépasse donc en tout cas le dossier. Et puis il y a des rubriques régulières, alors que nous aimons bien. Il y a... c'est une revue de sociologie, donc il y a une rubrique qui est intitulée Paroles, hein, ou qui sont des entretiens bruts, comme savent le faire les sociologues sur un certain nombre de, enfin sur des personnes qu'ils ont eu l'occasion d'interroger longuement dans le cadre de leurs travaux. Le dernier porte sur un officier de police. Et sur sa pratique professionnelle, sur ce qui l'a conduit à embrasser cette profession, les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur du corps lui-même, etc. Ça n'a rien à voir avec l'actualité policière à Lille ou à Lyon. Hein, c'est... bon, il y a Gérard Mauger, un sociologue bien connu, qui tient une rubrique appelée Rhétorique réactionnaire, dont l'objet est de décoder, en quelque sorte, décoder la langue de bois, d'ailleurs, beaucoup utilisée par le gouvernement, par les ministres ou par les hommes politiques. Hein. Moi-même, je tiens régulièrement une chronique de la gauche, ce qui renvoie pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté à un fameux texte publié dans Le Monde il y a en 96 ou 17, hein, par Bourdieu et quelques-uns de ses amis, et qui s'intitulait pour une gauche de gauche, qui était une interpellation du gouvernement. Ça ne voulait pas dire, dans l'esprit des rédacteurs, qu'il y avait une gauche de droite. Non, mais ça voulait dire, c'est une interpellation du Premier ministre, Jospin, à l'époque, pour lui demander de mener une politique qui soit de gauche. Hein. Donc, ça a un peu changé de sens aujourd'hui. Donc, cette chronique rend compte un peu des événements qui se situent à la gauche du Parti Socialiste, disons, des événements politiques en France ou en Europe. Nous avons une rubrique actualité, nous avons une rubrique idée, hein, où... une rubrique politique d'ailleurs, ces rubriques étant présentes ou non selon les numéros, quoi, hein, mais pour dire qu'il y a quand même deux parties assez distinctes, et d'après les échos que nous avons, les lecteurs ils commencent par lire les articles d'abord et le dossier ensuite, ou l'inverse, enfin c'est très varié. Pour dire qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage sur ce titre de revue là, il ne s'agit pas d'un ouvrage sur les inégalités devant l'éducation, mais d'une revue qui traite de cette question là parmi d'autres.
Alors pour un peu donner l'idée à nos auditeurs, c'est une revue qui fait 130 pages à peu près,
oui,
qui a un format demi à 4 un peu de choses près, qui se tient bien en main et qui est bien écrit, et chaque article fait les conséquences sans être vérifié. Louis vérifie la taille de la revue.
Oui, c'est demi à 4.
Et puis, donc chaque article fait 7, 8, 10 pages. Enfin, c'est conséquent à chaque fois.
Oui, ça c'est fait... Pour ceux qui comptent en
signes,
il y en a qui vont jusqu'à 25, 30 000, mais la norme, c'est 15, 20 000, quoi. Hein.
Non, mais tout ça pour dire que ce n'est pas non plus une revue qui fait des brèves, pas non plus exclusivement destinée aux chercheurs. C'est tout à fait accessible à tout le monde.
C'est ça. C'est une de nos difficultés dont nous sommes conscients. C'est un des défis que nous devons relever. C'est-à-dire ne pas. On connaît l'intransigeance toute bourdieusienne sur. La science en général et la sociologie en particulier, donc il s'agit nullement d'en rabattre. Hein. Donc l'enjeu, c'est bien pour ces usagers, bien d'ailleurs en général, ces chercheurs, c'est-à-dire de produire un texte qui soit souvent d'ailleurs très directement ça reprend les enseignements de tel ou tel de leur recherche et qui soit en même temps écrit de façon à ce que le commun des mortels, si je peux utiliser ces citations bibliques, puisse
passer à Radio Liberté.
Voilà.
On va se plonger un peu dedans. Donc, je vais. Tu es toi-même donc responsable d'une introduction, les inégalités devant l'éducation, avec Romuald Bodin qui a malheureusement pas pu se présenter ce soir. Je vous ai un peu prévenu dernière minute, il faut dire, suite à certaines difficultés.
Pas dernière minute, mais 48 heures. C'est, voilà. C'est quand même bref.
Le temps pour moi de lire la revue. Et ensuite il y a d'autres articles. Donc d'hier à aujourd'hui, les enjeux d'une sociologie de la pédagogie par Stéphane Bonnery. Toi-même, donc, tu as écrit un article qui prend les deux ouvrages de Bourdieu, Les héritiers et la reproduction, donc dans les débats des années 60-70, et puis les autres, sur l'idéologie du don, entre guillemets, donc par Gérard Mouget, dont tu parlais tout à l'heure, Repenser le curriculum commun par Bertrand Jay, L'appréhension des inégalités de scolarisation par Choukri Benayed et Sylvain Brocolichi, je ne sais pas. Et puis
on demandera.
D'accord. La question de l'abandon et des inégalités dans les premiers cycles de l'université par Romuald Bodin donc, et Mathias Millet. Et enfin, la construction des habitudes de lecture par Fanny Renard. Donc ça, c'est le dossier.
Voilà.
Et puis, le reste, on vous laissera découvrir. Au passage, c'est une revue qui coûte 15 euros et qui est trimestrielle.
Oui, mais je n'aurais pas dit le prix parce que comme ça marche bien, nous allons très sérieusement baisser le prix. Donc si les auditeurs, le prochain numéro sera à 10 euros, ce qui est même pagination, ce qui sera quand même plus... il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas bénéficier les lecteurs des...
Du succès de la revue.
Oui, enfin, du succès. il faut l'acheter quand même.
Hein, c'est...
Mais en tout cas, nous allons vers au prochain numéro, donc numéro 18, le prix va avoir sensiblement baissé.
C'est une bonne nouvelle pour nos auditeurs, ça. Alors, une première question, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce thème pour cette revue? Est-ce que c'est l'actualité? Est-ce que c'est quelque chose qui était dans le fond de l'eau?
Oui,
de l'air?
Oui. Bon, l'équipe de la rédaction, là, où ce groupe des membres de l'association Savoir Agir, c'est quand même, comme diraient les mathématiciens, un ensemble fini. C'est-à-dire, ils ont ils sont spécialisés, ce sont tous des sociologues, Mais il y a des sociologues du travail, il y a des sociologues de l'éducation, il y a des... Mais ils ne sont pas les seuls à écrire. Hein.
Oui, c'est ce que je parle dire, parce des... que dans l'éditorial,
oui, on trouve
des
non, mais, sont... Donc, jusqu'ici, pratiquement, on a pu faire, hein, tout simplement, en publiant les thèmes, enfin, en publiant un dossier sur les thèmes que ce collectif de rédaction connaît bien, quoi. Alors, en général, il y a une ou deux personnes, hein, tu as cité Romuald Baudin et moi-même, hein, cela change avec chaque dossier, quoi. Hein. C'est-à-dire, Romuald Baudin, lui, il est à l'université de Poitiers, c'est un chercheur en sociologie sciences de l'éducation, peut-être, ou en sociologie de l'éducation. Et moi-même, c'est un peu comme j'ai travaillé là-dessus, c'est un peu mon sujet, même si... et pour ça, d'ailleurs, que c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a cette expérience aujourd'hui, hein, de la recherche dans tel ou tel domaine. Mais cela n'a pas été possible, hein, je le regrette un peu. Et tous les autres, alors, sont des personnes qui sont sollicitées donc, par ceux qui pilotent le dossier, ceux qui pilotent le dossier, mais qui peuvent ne pas avoir du tout de rapport direct avec la revue et l'association. Bon, je mentirais, personne ne me croirait si je dirais que c'est comme ça à tout vent. Hein. Oui. Il y a quand même des communautés de pensée, ils se connaissent, ils travaillent ensemble, et donc ici, alors qu'est-ce qui nous a conduit à faire ce dossier ? Eh bien, d'abord la rentrée scolaire, même si on n'est pas un quotidien, mais il y a quand même des rentrées scolaires de plus en plus difficiles, ça nous paraissait, alors que, on a parlé de Romuald Baudin, tu as cité Bertrand G, qui est quand même un des personnages... disons, qui produit le plus sur l'éducation. Bon, il y a Stéphane Bonnery qui est à Paris 8, Choukri Benayed et Sylvain Brocoli qui font des travaux sur les territoires en particulier, hein, qui sont tout à fait top, quoi, qui sont souvent cités dans les revues critiques ou dans la presse. Donc, on a voulu... marquée, enfin, cette rentrée scolaire de plus en plus difficile, donc par une production sur l'éducation. Et alors, c'est le deuxième élément, c'est aussi un clin d'œil, hein, ce qui a révolutionné la réflexion sur l'éducation, hein, même si, et dans des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles, hein, c'est les premiers travaux. De Pierre Bourdieu et son partenaire pendant longtemps, Jean-Claude Passeron, qui dans les années 1960, donc c'est le 40e, entre le 40e et le 50e,
ça fait,
oui, qui ont donc écrit un premier livre qui s'appelait Les Héritiers, qui justement démontait la croyance un peu naïve, à savoir qu'il y avait égalité devant l'éducation. Hein. Et ils ont remis le couvert, si je peux dire, alors là c'est le 40e anniversaire, en 1971, donc dans la période où beaucoup d'idées étaient agitées autour de 1968, avec la reproduction.
Hein. Alors là, tu es en train de nous emmener dans ton article.
Non, mais juste pour situer. Voilà. Oui, c'est le deuxième élément, donc ce 40e anniversaire, et puis revenir sur cette question en n'oubliant pas ce qu'on peut d'une certaine façon appeler les pères fondateurs de l'approche, disons, plus. Bon, en termes d'inégalité. Voilà, oui.
Alors, est-ce que justement, maintenant qu'on a entamé cela, est-ce que tu peux nous parler un peu ce que tu fais dans la revue, donc de ce que ça a lancé, ça, les héritiers, la reproduction, tes critiques, hein, parce que bon, toi-même, ancien syndicaliste, tu parles des syndicats, de leurs
proches. On a, dans un souci de brasser large et surtout de ne pas nous arrêter, on en parlera tout à l'heure, hein, de la question des inégalités aujourd'hui, mais c'est vrai que pour dire les choses brutalement, quand Bourdieu et Passeron ont sorti ce livre, ça a été considéré par beaucoup comme un brûlot, puisque ce livre montrait, avec des données qui existaient d'ailleurs, hein, c'était les données de l'INED, de l'Institut National d'Études Démographiques, hein, qui montraient que l'école, c'était pas du tout égalitaire, et que c'était fortement corrélé à l'origine sociale, et ce que les enseignants, évidemment, ont eu beaucoup de mal à accepter, hein, puisqu'ils avaient l'impression qu'on portait directement atteinte, au fond, à leur conscience professionnelle. Mais ils avaient d'autant moins conscience de cela qu'à l'époque, donc dans les années 60, on n'avait pas encore de système éducatif, comme on peut dire aujourd'hui, puisqu'il y avait des circuits très différents. Il y avait l'école primaire, les classes de fin d'études pour les plus anciens, et puis la vie professionnelle, sans aucun problème. À l'époque, qu'on ait le certificat d'études ou qu'on ne l'ait pas, on était dans les 30 glorieuses, on s'insérait. Et une filière, disons, qui commençait très tôt d'ailleurs, parce que certains lycées avaient leur propre classe primaire, donc une filière... petit lycée, grand lycée qui commençait dès la sixième. C'est-à-dire, à l'époque, au fond, la répartition des élèves, elle se faisait presque... Elle se faisait sans conflit majeur. Hein. Il y avait l'école du peuple... Hein, qui menait, alors avec des exceptions, ce que Bourdieu appelait les miraculés, hein, parce qu'il y avait des passerelles qui permettaient de mais quand même, c'était en gros, c'était d'ailleurs d'autres sociologues cités et qui eux sont ils viennent de quitter l'activité professionnelle, mais ils écrivent toujours. C'est Christian Baudelot et Roger Establé ont écrit en 1971 ou 12, alors un autre livre considéré comme un pamphlet qui s'appelle L'école capitaliste en France, hein, qui justement démontait montrer cette double, au fond, qu'il y avait deux filières qui étaient à peu près, qui étaient quasi étanches l'une à l'autre. Hein. Donc, la question de l'échec scolaire, elle ne se posait pas pour une raison bien simple, c'est celui qui ne suivait pas, il était orienté.
Il n'y avait pas d'échec.
Il n'avait pas d'échec. Hein. C'était, d'ailleurs, à l'époque, on pense beaucoup... toute cette référence à l'idéologie des dons, c'est quand même quelque chose qui était assez répandu, hein, à savoir que la croyance très forte dans le fait que les enfants étaient inégalement intelligents, disons, peu importe leur milieu, hein, il y avait des enfants intelligents dans tous les milieux, donc au fond, les formations professionnelles, les formations de fin d'études et tout ça, c'était simplement des filières adaptées, hein, à ceux que la nature avait moins bien pourvus en intelligence. Hein. Alors bien sûr, c'était un sujet de débat, ça. Et dès cette époque-là, je le signale, il y avait beaucoup de personnes ou d'organisations qui se battaient contre cette idéologie des dons. Mais globalement, la croyance était quand même celle-là. Donc, l'idée qu'il y en avait, l'idée que l'école elle-même produisait des inégalités, elle était totalement étrangère à...
À la pensée...
Qu'elle soit progressiste ou réactionnaire, d'ailleurs.
Hein, justement, alors, quand tu dis beaucoup, plusieurs fois, alors, dans l'article, c'est ce qui peut surprendre, quand on arrive avec nos a priori, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément exclusivement des gens conservateurs ou réactionnaires, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde, dans le sens où, tu disais tout à l'heure, les enseignants se sentent visés, alors qu'on aurait pu penser qu'ils prenaient ça avec eux pour changer les choses, etc. Donc, il y a déjà un a priori qui saute. Tu disais tout à l'heure que, en fait, ça a été considéré comme un brûlot alors que les données étaient là. Puis tu cites Bourdieu en disant qu'effectivement l'ouvrage fait l'effet d'une révélation alors qu'il ne disait rien de très extraordinaire. L'effet était assez bien connu de la communauté scientifique.
C'est Bourdieu lui-même qui le dit ça, c'est une citation, je crois.
Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout d'un coup, les choses basculent? Et puis, sans vouloir dire tout le monde en prend pour son grain, c'est-à-dire qu'effectivement, quand tu cites les réactions des syndicats, des enseignants, de ce qui est mis en avant, le Parti communiste, etc., c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse non plus. Parce qu'il n'y a pas vraiment de...
Non, c'est-à-dire l'époque était quand même... Il y a un programme, un plan, hein, qui exerçait une influence très grande à cette époque-là. Hein, on était quand même 15 ans après la libération, en quelque sorte. Hein, c'était la libération, aujourd'hui on en parle beaucoup d'ailleurs, hein, le programme du Conseil national de la résistance, avec tous ceux qui aimeraient bien que ça se mette en œuvre, mais aussi... on a cité par exemple cet ancien vice-président du MEDEF, M. Kessler, dont le programme qui suggère comme programme politique pour la droite le simple démontage, détricotage de toutes les mesures préconisées dans le programme du Conseil national de la résistance, qui était un programme économique et social, hein, général, quoi. C'est à ce programme-là, quand même, qu'on doit la sécurité sociale comme on la connaît aujourd'hui, même si elle est attaquée, que EDF était une compagnie nationale, et ainsi de suite. Hein. Donc, il y avait ce contexte-là, et pour l'éducation, ça a pris un peu plus de temps. Donc, si le programme du Conseil national de la résistance a été partiellement, en tout cas, mis en œuvre, le rapport de force était favorable à ce moment-là. Le programme éducatif, alors qui s'appelle le plan Langevin-Vallon, du nom des deux savants, Henri Vallon, le psychologue, et Langevin, qui était un scientifique, hein, c'est eux qui présidaient cette commission, qui a donc élaboré ce plan Langevin-Vallon, mais un peu trop tard, c'est-à-dire le gouvernement, il n'était plus ce qu'il...
Ce qu'il était quelques années avant.
Ce qu'il était, oui, deux ans avant. Hein, parce que ça a été très vite quand même à la libération, la rupture de l'alliance entre les chrétiens démocrates, hein, le MRP, comme on disait à l'époque, les socialistes et les communistes. Une fois que c'était consommé, plus rien n'a été mis en œuvre. Donc ce plan est toujours resté un peu un mythe, quoi. Mais comme tous les mythes, on l'a enjolivé. En réalité, si on le regarde aujourd'hui, hein, avec les acquis des luttes d'une part, les acquis de la connaissance, bon... Il paraissait quand même un peu, avec un objectif extraordinaire pour l'époque, hein, c'est-à-dire une seule école moyenne, ce qui allait devenir frauduleusement le collège unique après, mais une seule école moyenne où tous les enfants étaient passés par là, ce qui était totalement différent de l'expérience sociale, hein, dans le pays à ce moment-là, tous les maîtres formés au niveau de la licence, en 1945. Hein. Donc l'égale dignité des maîtres qui allait être l'objet de conflits interminables 20 ou 30 ans après encore, hein, lui il préconisait ça, mais en même temps, quand on le relit aujourd'hui, on a l'impression que que l'idée dominante de ce plan était quand même, si on ouvrait les structures, si on avait des maîtres convenablement formés, eh bien il n'y aurait plus, d'ailleurs le mot échec scolaire, il n'est pas prononcé là-dedans, hein, toujours pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. C'est plus tard, hein, que ça va intervenir, parce que là, dans les années 60, alors pour des raisons totalement différentes, la grande réforme du gaullisme, après le retour de De Gaulle, hein, ça a été d'avoir un système, c'était l'époque où la France, dans les thèses officielles, la France manquait de techniciens, manquait d'ingénieurs, c'était l'époque de la planification, c'était l'époque où on voulait construire nos propres armes nucléaires. Le Concorde, un peu plus tard, tout ça, c'était quand même une période, disons, d'une certaine ambition, au moins apparente, et c'est vrai que dans ce cadre-là, l'ancien système, il suffisait pas à assurer à assurer la reproduction des élites, comme diraient certains. Hein. Il fallait que les seuls enfants de la bourgeoisie ne suffisaient pas pour répondre aux besoins français en techniciens et en ingénieurs. Donc, il y a eu cette réforme et c'est là, donc, qu'on avait d'un côté cette croyance en, à partir du moment où on donnait les moyens, par exemple,
hein, à tout le monde.
Et puis Bourdieu qui vient un peu comme un, enfin Bourdieu et Passeron qui viennent un peu comme des empêcheurs de penser simplement, naïvement les questions d'éducation. Hein, et pourtant, ils avaient, bon, d'abord ils avaient raison. Il y a eu cette réticence hein, à accepter ces thèses que Bourdieu d'ailleurs 20 ans ou 30 ans après rappelait encore hein, qu'il avait eu beaucoup de mal. Enfin personnellement je pense d'ailleurs qu'il exagérait un peu la résistance parce qu'il y a eu une résistance pendant une période très courte. Mais l'idée que le système éducatif traduisait quand même d'une certaine façon ou reproduisait la stratification sociale, que qu'il n'y avait pas égalité des chances et tout ça, cette idée-là...
Elle
a fait son chemin assez rapidement. Hein. Et le fait que le... Oui, qui aujourd'hui... Alors... On peut en venir. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui aussi il y a une forme de naïveté. Enfin, peut-être que c'est pas le mot exact, mais de manque de discernement dans les analyses sur l'éducation. Quand il y a eu les premières comparaisons internationales...
Les enquêtes PISA,
voilà, de l'OCDE,
hein, oui,
qui est donc pas l'UNESCO, mais l'OCDE. Bon, PISA, c'est un truc anglais qui veut dire Programme International d'Évaluation des étudiants, ou des élèves.
Hein. On est à niveau du collège, je crois, non, à peu près.
Oui, 15 ans, c'est ça, les premières. Hein, ensuite, l'évaluation a gagné, mais... Pour ce qui concerne le programme PISA, c'est à 15 ans. Hein. Donc, alors, quand il y a eu la première, ça devait être en 2001 ou 2002. Alors là, ça a déclenché un tonnerre, dans un ciel serein, dans deux pays, la France et l'Allemagne. Surtout la France et l'Allemagne, parce que la France, les résultats français étaient tout juste moyens. Ils n'ont jamais cessé d'être moyens, d'ailleurs. Et,
en français, les deux choses évaluées, c'est français, la langue du pays et les mathématiques.
Il y a plusieurs vagues. Hein. Mmh. Il y a les sciences, il y a les mathématiques et la maîtrise du langage
du pays.
Écrit, en 2010, là, le dernier PISA, ça a été la maîtrise de l'écrit. Hein, donc, ils font ça, mais ça a été, évidemment, comme la France était étonnamment mal classée, surtout moins bien classée, par exemple, que les États-Unis et l'Angleterre. Alors que, quand même, dans notre... dans notre conception générale du fonctionnement des sociétés, on a l'impression que, qu'aux États-Unis, que l'éducation, c'est rien, ils vont tous à l'université, ils apprennent rien. Ça a quand même été un coup de semonce. Hein, et donc, il y a eu la réaction qui était en partie justifiée. Hein, c'est généralement en partie justifié. C'est-à-dire que le PISA ne teste pas les connaissances. Hein. Il n'y a pas de question du genre quelle est la capitale de...
Je
simplifie.
Ou
quelle est... réciter le théorème de Pythagore. Non, il teste des compétences, c'est-à-dire la... S'ils testent le fait de savoir si les élèves sont capables de mettre en œuvre les connaissances acquises. Alors, les gens qui réfléchissent en France sur les problèmes de l'éducation, ils savent un peu ça. Hein. C'est que la façon de concevoir les programmes en France, elle est pas adaptée à ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a des gens très cohérents et qui disent que c'est pas ça qu'il faut voir. Hein. C'est les connaissances, la culture, hein, et la mise en œuvre. Bon, ils le feront après. Hein. Il y a eu aussi des explications plus sophistiquées du genre les élèves français, enfin dans l'école française, on sanctionne l'erreur.
Sans valoriser.
Donc, un élève, son premier souci, enfin un de ses premiers soucis, c'est de ne pas faire d'erreur. C'est-à-dire en cas de doute, il ne va pas répondre à une question. Parce qu'il a peur de faire une erreur qui serait sanctionnée. Et ces personnes-là disent, sans doute avec raison, que dans d'autres pays, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même statut de l'erreur. Donc, à ce moment-là, quand l'élève ne sait pas trop, il donne une réponse quand même, comme il a une chance sur deux de tomber sur la main. Voilà. Enfin, on a cherché un tas de choses comme ça, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, ces débats se sont... Bon, PISA s'est amélioré aussi. Aujourd'hui, c'est mieux... Enfin, ce n'est plus contesté aussi radicalement que ça a pu l'être, et ça met quand même en évidence deux phénomènes très forts, hein, qui sont abordés dans d'autres articles. C'est un, que le système français est un des plus inégalitaires, c'est-à-dire il creuse un des plus producteurs d'inégalités, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, alors qui elle est... les enseignants, ils le savent bien en général, nous avons un des systèmes qui est le plus... qui corrige le moins les inégalités de type socio-culturel, socio-économique et tout ça. Hein, c'est-à-dire... ou pour le dire autrement, de façon peut-être un peu plus spectaculaire, nos bons élèves sont vraiment de bons élèves. C'est-à-dire, ils rivalisent avec les bons élèves des autres pays. Mais nos mauvais élèves sont vraiment de mauvais élèves. C'est-à-dire, enfin, d'ailleurs, on le sait bien, avec le nombre de départs précoces du système. Oui, mais ça, cela veut dire, si on est sur un pied d'égalité avec les pays qui réussissent le mieux pour nos bons élèves, et sur un pied d'égalité avec les pays qui réussissent le moins bien pour nos mauvais élèves, ça veut dire que c'est chez nous que l'écart est un des plus importants. Et ça, c'est quand même aujourd'hui... donc ce résultat brut, en quelque sorte, il n'est plus contesté, il ne peut pas être contesté. C'est-à-dire, on reste toujours dans le... si on regarde les trucs de l'OCDE, on reste toujours dans la moyenne. Hein, c'est pas honteux d'être dans la moyenne, hein, mais on se distingue, si je peux dire, hein, par un système très inégalitaire. Hein, c'est-à-dire... ça creuse les écarts si on regarde les PISA depuis 2000 d'ailleurs, donc c'est pas 2001, jusqu'à la dernière qui devait être 2009. Là j'ai un chiffre, par exemple, il y a 5% de plus d'élèves en difficulté en 2009, hein, que par rapport à 2000. Mais il y a aussi 2%, enfin 1,6% d'élèves très performants en plus.
Donc l'écart s'accroît.
L'écart s'accroît, oui.
On fait une pause.
Barbarie, où c'était aigre doux. Barbarie, après tout, je m'en fous. Des carrefours, Barbarie, garde donc vécu. Barbarie, c'est toi qui l'as voulu. Barbarie, le remède est connu. Il y avait un assassin qui donna la saignée au galant pèlerin. Barbarie, ce fut accidentel. Barbarie, en sortant de l'hôtel. Péché fut mortel. Dans la rue infernale qui nous mène au sapin, lave ton linge sale, mais prends garde aux pépins. Barbarie, si tu veux de l'amour, Barbarie, méfie-toi des discours. Barbarie, le bonheur est si court. Barbarie,
il y a un pendule.
Voilà, vous êtes toujours donc sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, la radio sans Dieu ni maître, téléphone du studio, donc 01 43 71 89 40. Et nous invitons donc Louis Weber, qui a participé et coordonné le numéro de la revue Savoir Agir, revue trimestrielle de l'association du même nom, Savoir Agir, le numéro 17 septembre 2011, qui est dans toutes les bonnes librairies et sur Internet, sur le site savoir-agir.org ou éditionducroquant.org. Et le numéro porte en grande partie, mais pas uniquement, sur les inégalités devant l'éducation. Alors nous avons fait un bond dans le temps, hein, des années 60 à aujourd'hui, pour des choses qui se présentent autrement, mais qui sont toujours l'inégalité en action, on va dire. Et Louis, je te propose de revenir juste un petit moment sur les thèses de Bourdieu et de Passeron pour expliquer un peu qu'est-ce qu'ils mettaient en avant et qui a un peu ébranlé à la fois le monde éducatif et les civils de l'époque.
Ouais. Oui, enfin, quel est le... aujourd'hui comme hier d'ailleurs, hein, enfin, la pensée dominante, mais c'est pas irrespectueux ce que je dis là, et c'est pas péjoratif, hein, ça... y a d'abord une chose qui touche à la culture que transmet l'école. Hein. Tous les enseignants, tous ceux qui réfléchissent, qui conçoivent les programmes, ont un peu l'idée que ce qu'on enseigne, la culture qu'on transmet, ce sont des universels en quelque sorte, hein, qui sont totalement neutres par rapport à par rapport au public, hein. D'où d'ailleurs l'idée qui a longtemps été, pendant des dizaines d'années, le système était méritocratique. Ça voulait dire que puisque chacun était dans la même situation, a priori, puisque ce qu'on enseignait, la façon de le faire, les structures ne défavorisaient personne. Hein, donc ceux qui réussissaient, ils avaient plus de mérite que d'autres, et, que ce soit d'ailleurs lié au don, au travail, ou peu importe, hein, mais en tout cas, ça fonctionnait comme ça. Bon, alors ce que Bourdieu et Passeron, leur thèse, au-delà des résultats de leur... au-delà des statistiques qu'ils allaient chercher à l'Institut National d'Études Démographiques, leur thèse, c'est que cette affirmation, elle est fausse. Hein, c'est-à-dire l'école, la culture transmise par l'école, elle n'est pas du tout neutre. Autrement dit, un enfant, selon qu'il est familiarisé ou non avec cette culture, il va se sentir de plein pied. Hein, selon, ce que eux-mêmes appellent l'habitus culturel. Hein, il va se sentir de plein pied avec la culture transmise par l'école. Soit pour eux, ça va être quelque chose d'étranger.
Un nouvel univers.
Oui, ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas, mais ils réussiront au compte-gouttes, mais massivement, ils sont rejetés. C'est ça qui était peut-être le plus insupportable pour les enseignants de l'époque, hein, les enseignants sont toujours un peu positivistes, un peu de... ils savent bien qu'ils n'enseignent pas la science la plus avancée. Ils sont convaincus, et c'est vrai d'ailleurs dans la plupart des cas, qu'ils enseignent des choses que... je vais dire les choses autrement. Ils ont accepté à cette époque-là difficilement l'idée que ce qu'ils enseignaient... pouvait mettre des élèves, enfin pouvait être plus égal pour certains que pour d'autres. Et c'est ça quand même qui a été la raison profonde du rejet, des réticences devant ces thèses de Bourdieu qui étaient assez largement partagées. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand même, ça a fait réfléchir assez rapidement et il n'a pas fallu plus de 10-15 ans, pour que dans les écrits des syndicats, par exemple, ou des organisations, mouvements pédagogiques et ainsi de suite, qui s'occupaient de cette question-là, l'idée qu'il fallait faire attention à cet aspect des choses, elle était quand même...
qu'il n'y a pas uniquement ceux qu'on enseigne, mais la façon de le faire.
Voilà, d'où les travaux, d'ailleurs, qui datent de cette époque-là, hein, nombreux, sur les programmes, sur les... Encore que, alors, dans l'article que... Dans un des articles du dossier, sur ce sujet-là, il y a celui de Bertrand G, qui justement critique au bon sens du mot, c'est-à-dire interroge la façon dont la réflexion sur les programmes, dont les changements de programmes se sont faits et se font encore aujourd'hui, quoi. Hein. Stéphane Bonnery, lui, il va même plus loin, il interroge les outils pédagogiques. Enfin, tout ceci pour dire que... Oui, tout ceci pour dire que dans ces recherches que Bourdieu et Passeron ont initiées, hein, et dont leurs disciples n'ont pas le monopole aujourd'hui, hein. C'est ça, c'est quand même quelque chose qui s'est là assez largement répu, qui s'est assez largement répandu. À partir de ce travail fondateur, hein, il y a eu toute une série de développements qui continuent aujourd'hui encore, hein, dans des champs différents de la recherche en sciences de l'éducation. Alors, mais toujours avec l'idée que on croit que c'est neutre, mais ça ne l'est pas.
Tu as cité Bourdieu et Passeron, tu as cité Baudelot et Stablet. Il y avait aussi Ivan Illich, et puis il y a une belle phrase dans ton article. Pour lui, il faut détruire l'école, car l'école est une prison fermée au monde où l'on distille une idéologie mensongère.
Oui. Là, il y a la référence à l'idéologie, donc ça recouvre un peu ce qu'on dit, c'est un peu voisin de ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la culture, hein. C'est vrai qu'il dit ça, hein, qu'il n'est pas le seul à le dire. Maintenant, lui, son ouvrage le plus connu en France, hein, ça aussi, il faut se replacer à cette époque-là, 68, les deux ou trois années qui ont suivi, il y a eu production en France, mais aussi importation d'ouvrages différents. Il y a celui-là que tu viens de citer, qui s'appelait « Une société sans école ». Donc, Ivan Illich, à partir de cette critique de l'école, hein, donc, il en déduisait qu'on ne peut pas changer l'école. Hein. On ne peut pas la changer, donc il faut dépasser l'école, en quelque sorte. Hein. Donc, une société sans école, ça veut dire que... aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un peu, en un sens, c'est un peut, enfin, Internet pourrait préfigurer ce genre de choses. Si j'ai besoin de savoir quelque chose, donc je téléphone à quelqu'un dont on m'a dit qu'il savait, je le rencontre dans un bistrot, hein, c'est comme ça qu'il raconte des choses. Bon, tout ça, c'est d'ailleurs des formes aujourd'hui avec Internet, c'est possible. Et il y a des gens qui amassent des connaissances par rapport à ça, mais ça oublie simplement une chose. Cela suppose quand même que l'être, il est constitué, hein, avec sa curiosité, avec un certain nombre d'habiletés, disons, de base, alors que les éducateurs, en général, pensent que c'est justement le travail d'éducation qui produit les compétences qui permettront de faire ça. Il y a eu, dans le même ordre d'idées, pour revenir aux sources des débats, il y avait un autre livre qui s'appelait « Libres enfants » de Summerhill. Summerhill, c'est en Angleterre, hein, c'était une école en Angleterre où il y avait, disons, c'est un nommé Neil qui avait écrit ça, donc a rendu compte de cette expérience d'enfants heureux dans une école où il n'y avait aucune contrainte. Hein, on peut considérer ça comme des utopies, qui, comme toutes les utopies, il ne faut pas les rejeter a priori, quoi. Hein. Maintenant, c'est vrai qu'entre une expérience de 30 enfants dans un lieu enchanteur en Angleterre, tous ici sans doute des couches favorisées de la société, transposer ça dans une banlieue avec les difficultés sociales, économiques et tout ça, on peut penser que c'est pas tout à fait là,
c'est pas gagné.
Que c'est pas reproductible, quoi, en quelque sorte. Hein. Mais c'est quand même toutes ces questions-là qui étaient en débat, d'où la violence de certains textes que je signale d'ailleurs, qui venaient d'ailleurs, hein, puisqu'on parlait de syndicats, autant les citer, qui venaient aussi bien du SGEN. Pourtant acquis à la réforme, peut-être plus que le SNES, si on parle des syndicats du second degré, mais les deux avaient quand même en commun de ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. En quelque sorte, de considérer avec des programmes différents, d'ailleurs, qu'il était impérativement nécessaire de réformer l'éducation, alors que, poussé au bout, hein, les thèses d'Illich et d'autres revenaient à dire que l'école est irréformable, en quelque sorte.
Alors, là où c'est en plus surprenant, tu annonces que